Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
L'accès aux services sociaux de base est un des plus grands défis au Mali. La population attend beaucoup du futur président pour l'amélioration de la situation qui est de plus en plus critique. Nos invités sur ce plateau, Mamadou Sissoko, représentant de la Fédération malienne des personnes handicapées, Samerou Diallo de l'association SOS aux hôpitaux, Adam Fomba, porte-parole des syndicats signateurs du 15 octobre 2018. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, M. Fomba. Tout d'abord, c'est quoi les services sociaux de base?
Les services sociaux de base, c'est pratiquement les services essentiels sur lesquels, bien sûr, les populations ont plus d'engouement et surtout les besoins sont centrés sur ces services-là. Donc là, on peut appeler, entre autres, les services centraux, les services sociaux.
D'accord. Et vous, M. Sissoko, qu'avez-vous ajouté en termes d'explication des définitions des services sociaux de base?
Bonjour à tout le monde. Je pense que M. Fomba a donné la définition qu'il faut. C'est les services les plus fréquentés par les populations. C'est les services vers lesquels les populations émettent plus de besoins. Et en un mot, c'est ça.
D'accord. Et vous, M. Diallo?
Merci beaucoup. Samerou Diallo, comme vous l'avez dit, du mouvement collectif et Santé pour tous. En ajoutant à ce que mes collègues viennent de dire, moi, j'aurais ajouté qu'on parle de services sociaux de base, comme je le dis, en droits humains. Dès que tu es né en tant qu'être humain, tu as droit à ces services-là, que ce soit la santé, l'éducation, l'inclusion. De façon globale, c'est des choses qui te reviennent en tant qu'être humain. C'est inné à ta vie. On ne doit pas te priver de ces choses-là. Et ces choses-là ne doivent pas être chères. Tu dois à ça, on doit te donner, quels qu'en soient les moyens. Comme l'a dit la Constitution du 25 février 1992, on est tous égaux en droit et puis en devoir. Donc ces services-là, nous avons l'État a l'obligation de nous rendre ces services-là de façon gratuite. Donc c'est ce que moi je pourrais ajouter en termes de définition.
Et diriez-vous que ces services-là sont accessibles au Mali?
Ça c'est une question, je vais dire, fondamentale que chacun de nous doit essayer de répondre d'une manière ou autre. L'accessibilité de ces services-là, on peut en débattre jusqu'à demain. Chacun peut dire sa part, mais nous, à notre niveau, le collectif Santé pour tous, on a dit que oui, d'une part, c'est accessible, mais de l'autre côté, il faut le dire, c'est mal réparti. Et cette répartition dont nous avons tellement décrié, il faut le dire, quand on veut faire le constat, on n'est pas là pour critiquer quelqu'un, mais le constat est là. Le citoyen lambda n'a pas accès à ces services sociaux de base-là. Et qu'est-ce qui a dit à cela? Cela est dit à quoi? Nous avons fait confiance à des personnes pour confier la gestion de l'État. Et ces personnes-là ont l'obligation de nous rendre le service que nous avons besoin à la base. On ne doit pas aller courir derrière la santé, on ne doit pas acheter la santé d'une main. Ça ne doit pas être un luxe à notre niveau. Donc nous avons l'obligation que ça soit accessible à nous tous. Ça ne doit pas être un luxe, à mon avis. On peut en débattre jusqu'à demain, l'accessibilité de ces services sociaux de base-là. C'est un débat de longue haleine parce que lorsque tu vas poser la question à un technicien, moi je ne suis pas un technicien de santé, mais en tant que citoyen lambda, je me dis c'est la répartition qui est à revoir, il faut le dire.
D'accord. Et vous, M. Sissoko, concernant l'accessibilité des services sociaux?
L'accessibilité des services sociaux de base, il faut le dire, on doit l'évaluer sur plusieurs mesures. Je commence déjà par la qualité du service. Nous ne sommes même pas encore arrivés à cette mesure-là qui est la qualité, parce que la disponibilité qui manque. La disponibilité du service, c'est quoi? C'est de pouvoir déconcentrer les services pour qu'elles soient plus proches des populations. Et ce niveau, on ne l'a pas encore atteint au Mali, parce que ce n'est pas partout que nous avons des services sociaux de base qui sont proches des populations, que ce soit les services de santé, les services de l'éducation. En plus, on parle de l'adaptabilité. Il faut que ces services sociaux de base soient adaptés à toutes les couches sociales. Parce qu'il ne faudrait pas avoir un modèle de service général. Quand je prends le cas de la santé ou de l'éducation, on a des services, ceux qui sont disponibles sont de manière générale. Mais ils ne sont pas adaptés à une couche. Je prends l'exemple des personnes vivant avec handicap. Les services de santé, surtout les services sexuels et de reproduction. En maternité, les femmes handicapées ont beaucoup de problèmes quand elles doivent accoucher. Ça, c'est un. Deuxièmement, les enfants handicapés ne peuvent pas étudier dans les mêmes écoles que les enfants non handicapés. c'est un peu là qu'il faut constater que ces services ne sont pas aussi adaptés. On parle aussi d'abordabilité. Mon ami vient de le dire tout de suite, M. Diallo, ce n'est pas abordable, ce n'est pas à la bourse du Malien. Soit le service a une mauvaise qualité, il est fait de manière gratuite, ou bien la bonne qualité du service n'est pas à la bourse du Malien. Donc, partant sur ces quatre mesures déjà, la disponibilité, la qualité, l'adaptabilité et l'abordabilité, on ne peut pas parler d'accès aux services sociaux de base.
D'accord. Et vous, M. Fomba, M. Sissoko nous parle de qualité, M. Diallo nous parle de répartition. Et vous, qu'en dites-vous ?
Par rapport à l'accessibilité des services sociaux de base, aujourd'hui au Mali, on doit se poser réellement la question concernant la santé, l'éducation. Aujourd'hui, est-ce que ça répond à nos besoins ? Vraiment, c'est ça la question. Maintenant, et si vous me demandez de répondre à cela, je dis, c'est pas aussi que ça. Pas aussi que ça. Parce que si vous prenez la santé, aujourd'hui, le citoyen lambda, le Malien en tant que tel, aujourd'hui, s'il veut bien se soigner, et les services à sa disposition concernant la santé, est-ce que peut lui permettre d'être en bonne santé ? Nous disons que non. Nous disons non, parce qu'ils ne trouvent pas, bien sûr, toutes les qualités nécessaires pour être en bonne santé. L'éducation, par exemple. Aujourd'hui, si vous prenez l'éducation, on a l'impression qu'il y a des écoles pour les pauvres et il y a une école pour les riches. Et aujourd'hui, là, est-ce que le Malien, est-ce que c'est ça l'accessibilité ? Je dis non. Donc, il faut vraiment que le service soit équitable pour le riche et pour le pauvre, pour l'enfant du riche et pour l'enfant du pauvre. Pas plus tard que l'année dernière, nous étions, bien sûr, autour de nos doléances, nous avions demandé, par exemple, la généralisation du curriculum. Vous partez même à Bamako ici, vous trouverez que dans les écoles où on enseigne le curriculum, il y a moins d'enfants là-bas. Et tout le monde, personne, même au sein du ministère de l'Éducation, personne ne veut que son enfant parte étudier dans ces écoles là où il y a le curriculum. Pourquoi ? Et tout le monde veut amener, bien sûr, son enfant. Alors qu'on a un seul programme. Et nous avons demandé seulement à ce qu'on généralise pour qu'on n'ait plus cette idée-là, ce sentiment-là des enfants riches pour telle école et des enfants pauvres pour telle école. Valable pour la santé. Vous partez dans certains CSCOM, dans certaines localités dans ce pays-là, et vous avez du mal même à trouver une plaquette de paracétamol. Donc, est-ce que même si le local est là, parce que ça ne suffit pas, et il y a tous les autres qui doivent accompagner, il y a le personnel, il y a les ressources humaines, il y a le plateau technique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que vraiment ces services-là sont là et que ça répond et bien sûr aux besoins des Maliens.
Mais quelle explication donneriez-vous à toute cette situation ?
Ça, quelque part, il y a une certaine volonté politique qu'il faut. Parce qu'il faut que nos politiques priorisent leur action. Au Mali, est-ce que dans les faits, dans les discours, nous comprenons qu'ils mettent l'éducation, la santé au premier plan de leur action, de leur projet. Mais dans les faits, vous trouverez que, bien sûr, l'éducation n'est ni leur préoccupation majeure ni la santé. Parce que souvent, ils trouvent là où c'est soigné facilement. C'est ça le problème. Il y a une volonté politique qui manque. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit le plateau technique, vraiment, il y a cette volonté politique qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Parce qu'il faut que nos politiques aient une vision et sur l'éducation et sur la santé. C'est ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant et avoir ce qu'on appelle un enseignement de qualité, une éducation de qualité et aussi un service de soins qui peut répondre aux aspirations des Maliens. Donc après cela, maintenant, là, ça dépendra de la population aussi. Et maintenant, la citoyenneté, de prendre soin de ces services-là pour permettre aux ressources humaines, aux travailleurs de travailler convenablement. Donc là, il y a ces aspects-là qui doivent se compléter pour qu'on puisse aspirer, et bien sûr, à non seulement un enseignement de qualité, mais aussi à un service de soins qui peuvent répondre aujourd'hui à notre besoin.
D'accord. Alors, M. Diallo, en termes d'explication de toute cette situation, M. Fomba nous parle de manque de volonté politique. Et vous ?
Oui, moi, je vais aborder dans le même sens que Sissoko. Il a parlé de la qualité. Il faut le dire, au-delà du manque de volonté politique, on sait bien que ces services-là ont été décentralisés à la demande de nous en tant que citoyens lambda. Parce qu'on le sait que l'État, c'est de façon centrale. Mais nous, est-ce qu'on a le moyen chaque fois de courir parce que tu as un mot de tête ou ta femme doit accoucher, doit forcément venir dans les hôpitaux? Non. On a demandé à ce qu'on ait des centres de santé communautaires auprès de nous, comme le dit service de base. Mais qu'est-ce qui est là? La SACO qui gère ces centres de santé-là, comment le personnel de ces centres de santé-là est recruté? C'est la question qu'on doit se poser. Ça m'amène à répondre à la question, juste à aborder dans le même sens que M. Sissoko. On a tellement décrié le recrutement du personnel des ASACO, disons entre guillemets les CSCOM qui est géré par les ASACO. Et de retour, on va voir que le centre de santé de référence qui est là dans toutes les communes. Et l'État en tant que tel doit faire quoi pour assurer, pour que ces services-là répondent aux critères? Il a dit, c'est une question de volonté politique qui est là. Tout récemment, pendant les campagnes, moi j'ai eu la chance, moi j'ai fouillé dans certains projets de société des différents candidats. Tu ne vois pas un candidat qui va prendre ces services-là comme priorité. Tout le monde s'est focalisé sur l'insécurité. C'est normal parce que c'est la situation actuelle que nous vivons au Mali. L'insécurité, ouais, problème au niveau du fort de sécurité. Mais nous, en tant qu'êtres humains, comme je le dis en introduction, dès qu'on est seulement, on a droit à ces services-là. On ne doit pas nous priver de ces services-là. Il ne faut pas que ça soit telle personne est riche, il bénéficie ça. Telle personne est pauvre, il doit mourir parce qu'il n'a pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, ta maman est malade ou bien tu as quelqu'un qui est malade, il faut l'envoyer au Maroc, il faut l'envoyer au Tunisie. Mais ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le courage de dire que moi, je ne vais pas envoyer ma maman aller se soigner au Maroc, mais je vais prendre le courage d'aller visiter les hôpitaux que nous avons au Mali ici, de se rendre compte que rien que laisser ma famille dans ce pays-là, mes enfants vont étudier ici, j'aurai le temps d'aller voir comment l'éducation elle est donnée, comment ça se passe. Mais du coup, tu as l'argent, tu envoies ton enfant à l'étranger pour aller étudier. Nous qui sommes là, on n'a pas d'argent. Est-ce qu'on sera traité au même pied d'égalité? C'est la question que moi je me pose. C'est une question de volonté politique qui est là. Mais je vais toujours aborder la qualité et c'est une question de répartition aussi, il faut le dire.
D'accord. Et vous, M. Sissoko?
Bon, nous constatons, il faut constater que nous sommes dans un système où l'inégalité sociale est grandissante. Et face à cette situation, on pense que la solution, c'est un manque de volonté politique, oui, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi un manque de capacité. Il y a certaines capacités qui manquent. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est des problèmes qui sont posés depuis un certain nombre de temps, qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Il y a aussi des capacités qui manquent. Les capacités qui manquent, pourquoi? Parce que tant qu'on n'arrive pas à évaluer même tout le système de gouvernance générale et de gouvernance sectorielle de ce domaine-là, de la santé, de l'éducation et autres, une évaluation, comme son nom le dit, sortir les problèmes, trouver les solutions, on ne va pas avancer. Et les solutions sont connues. Tous les gouvernants savent que les politiques qu'ils sont en train de mettre en œuvre ne reflètent pas les besoins réels des peuples. On a tardé sur ça. Aujourd'hui, on ne doit pas me dire au Mali quel est le syndicat qui n'a pas remonté les besoins réels des peuples aux gouvernants. On part à des négociations qui n'aboutissent pas, rien ne sort. Jusqu'à présent, je pense que les magistrats sont toujours en grève, si je ne me trompe pas.
Oui.
Voilà. Presque toutes les couches sont allées en grève. Et même des couches qui n'étaient jamais allées en grève sont allées en grève. Et vous pouvez me rectifier, je n'ai pas l'information d'une couche qui a été satisfaite. C'est ce que nous, on appelle la pyramide cassée, entre le haut et le bas. Les besoins du peuple ne sont pas écoutés. On n'approche pas le peuple pour savoir quels sont ses besoins. Et quand ces besoins sont remontés par la société civile, ça n'a pas d'impact. Si les syndicats prennent le relais, ça n'a pas d'impact. On va beaucoup discuter, chercher à trouver des solutions et autres. Mais il faut comprendre que les attentes des peuples sont pas... L'attente du peuple n'est pas ignorée par les gouvernants au Mali. Ça, je peux le dire. C'est pas ignoré. Mais il y a et le manque de volonté politique et aussi le manque de capacité même à pouvoir faire face à ces problèmes-là.
D'accord.
Oui, Monsieur Fomba, oui.
Par rapport à la capacité, moi je trouve que tout revient à cette volonté politique. Aujourd'hui, les politiques, que ce soit le président, lui, il est élu. Il met en place un gouvernement. Et le gouvernement est un instrument de travail du président de la République, de mettre en œuvre sa vision politique. Et si ce président n'a pas de vision claire concernant l'éducation, concernant la santé, et bien sûr, on n'ira pas loin. Par exemple, l'éducation, on a fait combien de forums sur l'éducation? On a fait le diagnostic de l'éducation. On a fait des résolutions, des recommandations fortes. Mais cette volonté et ce courage politique de prendre des actes a toujours manqué. Et concernant la santé, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut, à un certain niveau, que la population aussi se réveille. Moi, j'ai tout le temps l'habitude de dire ça. Parce que si la population ne se réveille pas, ces politiques-là, étant satisfaits de leurs conditions de vie, ne peuvent pas changer à nous. Il faut qu'à un moment donné, la population se réveille, revendique et pousse ces politiques-là à aller au-delà, même de leurs capacités. Parce que c'est ça aussi. C'est ça aussi. Parce que quand vous ne pouvez pas prétendre gérer un pays et vraiment ne voir qu'au bout de ton nez. Là, il faut qu'on arrête et il faut qu'on change aujourd'hui à aller dans des débats profonds. Et si vous regardez aujourd'hui, si nous discutons aujourd'hui des défis du président de la République parce qu'il y a eu des élections, regardez notre campagne. C'était des débats de caniveau. Et les deux challengers au second tour. Et on entendait que l'autre laisse que l'autre. Mais pourquoi? Il faut des débats réels. Il faut que les candidats, ceux-là qui ont la volonté de diriger la destinée de notre pays, qui viennent, qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils veulent pour ce pays, qu'est-ce qu'ils peuvent pour ce pays-là, et que les gens votent en fonction de cela. Mais seulement que qu'on remplisse les stades et que les gens viennent applaudissent, les artistes dansent. Vraiment, il faut que nous sortons de ce amateurisme. Moi, je dis aujourd'hui, il faut que la politique sorte vraiment de l'amateurisme. Et cette médiocrité dans notre système et dans la gestion même de ce pays-là, il faut que nous sortions de cela. Mais sachez que ce n'est pas possible si la population ne se réveille pas. J'ai l'habitude, la sécurité, certains parlent de la sécurité, oui. Dans tous les pays du monde, si l'éducation n'est pas prise à bras le corps, ce pays-là va droit au mur.
Et qu'est-ce qui ne va pas concrètement même dans l'éducation, dans le système éducatif?
Dans le système éducatif, vraiment, tout le problème est connu. Par exemple, on a décentralisé. Et le camarade parlait tout de suite de la décentralisation et le recrutement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est au niveau national. Les agents sont répartis. Mais au-delà des ressources humaines, notre système est aujourd'hui un champ d'expérimentation. Et les pays, les pays voisins ou bien l'Union européenne et autres, les partenaires viennent, ils imposent leur système. Et ils exigent à ce que ces systèmes-là soient appliqués moyennant quelque chose. Et malheureusement, nous, nos politiques ne pensent qu'à ça. Ce qu'on va leur donner pour l'application de tel ou de tel. Parce que là, il y a un financement qui est là. Et il faut que cette politique-là comprenne qu'il faut que nous, aujourd'hui, nous ne soyons pas dans un système. De l'indépendance de 91 à aujourd'hui, on est allé de réforme en réforme. Et même maintenant, nous sommes dans les réformes. Et si vous prenez l'enseignement secondaire général tout de suite, nous sommes aujourd'hui dans un système qu'on appelle l'APC, l'approche par compétences. Aujourd'hui, on a de la peine. Même les enseignants ont toutes les peines du monde pour appliquer correctement l'approche par compétences. Parce qu'ils ne sont pas financés. Et pourquoi ils ne sont pas financés? Et pourquoi ces formations-là ne sont pas financées? Et est-ce qu'ils ne sont pas financés réellement? Parce que d'autres sources nous disent que le financement est là, mais il y a ce phénomène-là, la corruption. Certains se permettent, bien sûr, de bouffer tout et que ceux-là qui doivent bénéficier réellement de ces formations ne sont pas formés. Et donc, tout ça, s'il y a une vision claire et qu'il y a le suivi, bien sûr, dans le processus, et que ça ne soit plus vraiment le Mali, notre pays, si cher à nous, ne soit plus un champ d'expérimentation. C'est vraiment très compliqué. Et si l'éducation n'est pas mis à niveau, qu'on ne se trompe pas, la rébellion, les révoltes ne vont pas cesser. Et vous partez, même tout récemment, quand, en 2012, quand la crise s'éclatait et qu'on disait qu'il y a des jeunes qui étaient recrutés de part et d'autre, si vous faites une analyse, soit c'est des gens, c'est des enfants qui ne sont pas allés à l'école, soit ils sont allés à l'école, ils ont le diplôme, mais ils ont perdu tout espoir. Ils ont perdu tout espoir. Donc, ils peuvent se donner facilement ou, et bien sûr, facilement, on peut les endoctriner et aller se donner à de telles pratiques. Donc, même sécuriser le pays, réduire la rébellion, tout, il faut, la solution, c'est l'éducation.
D'accord. Et concernant la santé?
Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à ce que M. Foma vient de dire. Moi, je vais parler du recrutement du personnel de l'enseignement. Actuellement, les jeunes qui ont des diplômes, on le dit, hein, l'enseignement, c'est le dernier recours. Parce que tu ne fais rien, tu vas t'investir dans l'enseignement. Soit tu as un parent qui a ouvert une école à côté, voilà, toi tu es à la maison, tu ne fais rien, on va te confier la gestion. Mais au fond de toi, tu n'es pas satisfait parce que c'est le dernier recours que tu viens de faire. Il faut aimer la chose. Mais nous, on a tendance à comprendre qu'on va vers l'enseignement parce qu'on n'a rien à faire à la maison. Et pour ne pas rester les bras croisés, on va faire l'enseignement.
Diriez-vous que c'est un dernier recours?
C'est un dernier recours. Tu prends un enseignant du premier cycle au Mali, tu prends un enseignant du premier cycle au Burkina, ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Alors que presque, on va dire qu'ils enseignent le même programme. C'est dit à quoi? C'est une question, comme il l'a dit, les magistrats sont en grève actuellement, c'est une question de volonté politique. Par rapport à la santé, moi je vais revenir un peu en arrière. Parler un peu du système que nous avons dans les quartiers. Dans mon quartier, vous avez des ASACO chez nous. L'ASACO qui gère le CES comme le centre de santé communautaire. Comment sont gérés ces ASACO-là? Il faut le dire, c'est le président de l'ASACO qui est, on va dire, entre guillemets, le supra-homme. C'est lui qui décide tout. Comment recruter le personnel du CES comme le budget. Il n'y a pas de compte rendu. Alors qu'on le dit, c'est l'association communautaire. C'est une association communautaire qui est là. Donc, la première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle la redevabilité au sein de la communauté. Il faut rendre compte au sein de la communauté. La SACO est là pour la communauté. Vous avez fait un budget, voilà, on a recruté le personnel chaque année, voilà le budget qui est là. Nous avons fait comme dépense et voilà le bénéfice, on rend compte à la communauté. Quelque chose qui est là, on ne fait pas ça. Moi, je ne veux pas accuser l'État à ce niveau. Je le dis, à titre à l'habitude de dire que nous avons fait le forum sur tout, il a dit. Il faut faire le forum sur l'homme malien. Nous, en tant que tel, on doit se reprocher. Hein. On doit se reprocher, il faut le dire. Moi, en tant que Samirou, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, je rends service à ma communauté ou bien je rends service à une portion de personnes qui est là? C'est la question fondamentale. Toujours dans ce sens-là, j'ai une sœur qui est à la maison, elle a fait le DEF à 3 reprises, elle n'a pas le DEF, je l'envoie faire 6 mois de formation en santé, elle revient parce que moi, je suis le président de l'ASACO, je vais recruter. Vous avez vu, depuis la base, il y a un problème. Donc, c'est un peu compliqué. Autant d'en vouloir, autant de dire que c'est une question de volonté politique, mais nous, en tant que citoyens lambda, remettons-nous en cause. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? Nous avons tous la chance d'avoir la responsabilité de gérer quelque chose, que ce soit de façon étatique ou de façon privée. Mais comment tu gères? Tu gères ta famille. Maintenant, on te met à la tête de quelque chose. Gère-le comme tu gères ta famille. Mais le fossé est là. Je sors du chemin à... C'est pour tout le monde. Hein. Je m'en fous de ce que ça va donner comme résultat. Donc, remettons-nous en cause.
D'accord. Alors, M. Sissoko, qu'avez-vous à nous dire concernant les défaillances dans le système éducatif et concernant la santé?
Je ne veux pas me limiter à ça. À ce niveau, il faut vraiment... Le problème, il est général. Je ne veux pas me limiter à l'éducation et à la santé. C'est tous les secteurs au Mali. Je reviens un peu sur ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. La remise en cause de l'homme malien. Je signale que le contenu de la remise en cause de l'homme malien sont les conséquences de la mauvaise gouvernance de l'État malien. C'est un peu ça. C'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance que le Malien a eu un nouveau comportement. Et on veut remettre ce comportement en cause sans toucher à la gouvernance. Il ne faut pas mâcher les mots. Il ne faut pas mâcher les mots. Tout à l'heure, sur l'éducation, le frère Fomba parlait du système éducatif qui n'est pas adapté. Oui, le système éducatif peut ne pas être adapté. Mais dans la sous-région, nous savons que le Mali n'est pas le seul pays dont l'éducation est financée par l'extérieur. Mais pourtant, ça marche là-bas. Ce n'est pas le système. C'est toujours la gouvernance de ces fonds alloués à l'éducation. La gouvernance de ces fonds alloués à la santé. Et dans tous ces secteurs. Tant que on n'aura pas des gouvernants qui ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne sont pas au pouvoir, mais le pouvoir appartient au peuple et le peuple donne un mandat de 5 ans pour gérer le pouvoir. C'est ici, même le peuple, si vous voyez que le peuple ne réagit pas, Fomba disait que le peuple doit s'élever. Le peuple ne peut pas réagir parce qu'on n'éduque pas le peuple dans ce sens. C'est encore l'État qui doit éduquer le peuple dans ce sens. Le peuple pense que c'est le président et son gouvernement qui ont le pouvoir. Non. Le pouvoir dans une démocratie appartient toujours au peuple. Et le peuple donne un mandat de 5 ans. Tant qu'on ne comprend pas ça, on aura même du mal à revendiquer nos droits parce que les gens ont peur. Et il y a des tentatives. Quand tu as une opinion, tu as une expression, tu veux l'exprimer, déjà, dès que tu as 2-3 cas, tu as peur, tu te résignes, tu te contractes. Tu ne peux pas parler. C'est ça. Tout le problème, on va beau traiter le sujet malien, ça va revenir la première responsabilité de garantir tous les droits de l'homme. Pour tous les Maliens, c'est l'État. Et l'État traîne dans la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement les gestions financières, aussi il faut le dire. Il y a même, comme il dit, le recrutement. Ça aussi, c'est les capacités. Parce que pour recruter un enseignant, pour recruter des enseignants de qualité, il faut aussi des cadres qui puissent sortir des critères de qualité. Depuis le ministère jusqu'à descendre. Aux Asako, c'est pareil. Vous voyez un peu. Et plus, c'est comme un cancer. Plus le temps passe, plus le cancer ronge tout le corps. Parce que si avant, on avait des enseignants qui étaient des enfants qui étaient mal formés dans les écoles parce que la gouvernance n'était pas bonne. Aujourd'hui, parmi ces enfants mal formés de 10 ans, 15 ans, il y a d'autres enseignants aussi qui viennent, qui eux-mêmes, à la base, ont été mal formés, qui deviennent aussi des enseignants mal formés. Et parmi eux aussi, nous avons des cadres aussi qui sont mal formés. C'est un cancer qui monte. Donc, je pense que c'est au peuple de comprendre. C'est le peuple qui doit comprendre. Et on ne va pas trop polémiquer, mais les résultats à sortir de ces élections présidentielles nous disent tout, nous amènent à comprendre tout et à quel niveau le peuple se retrouve. Et vraiment, c'est triste, mais c'est ça la réalité du Mali.
D'accord, monsieur Diallo,
oui, allez-y. En fait, je vais ajouter, il a parlé de l'élection maintenant. Mm-hmm. Ce qui est bizarre au Mali, nous, les citoyens commencent toujours à réfléchir après avoir voté. On a eu les élections, premier tour, deuxième tour. Voilà, on s'est dit, ouais, telle personne a gagné, tel candidat n'a pas gagné. Donnez-nous juste un an, une année seulement. Les gens vont commencer à crier partout. Ah, si je savais. Tu as voté, tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce qui allait se passer. Il a dit, tu vas confier la destinée du pays à telle personne pendant 5 ans. Donc, la moindre des choses, c'est de lui demander qu'est-ce que tu as comme programme, qu'est-ce que tu as comme proposition. Nous avons ça. Personne, on a vu que pendant les 3 semaines de campagne, c'était du... Il a dit, hein, M. Fomba l'a dit, peut-être le terme peut être bizarre, c'était du n'importe quoi. C'était tout sauf un débat approfondi entre les différents. Il faut le dire. Mais nous, en tant que citoyens, on a passé 5 ans à dire c'est mal, on a la mauvaise gouvernance, tel secteur n'est pas bon, il y a corruption, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on nous donne la chance de dire, voilà, on a la chance de renouveler encore notre confiance. Et là, à ce niveau, on ne dit pas qu'on ne savait pas. C'est après avoir voté, on va se dire, si je savais.
D'accord. Oui, monsieur Fomba, oui.
Juste, moi, je voudrais donner certaines informations par rapport au recrutement.
Oui.
Si vous prenez l'éducation, mm-hmm. aujourd'hui, le recrutement, y a deux fonctionnaires au niveau de l'éducation, du corps enseignant. Donc, il y a cet enseignant-là qui est le fonctionnaire des collectivités et il y a cet enseignant qui est le fonctionnaire de l'État. Et depuis un certain moment, l'État ne recrute plus. C'est les collectivités qui recrutent. Et ils recrutent comment ? C'est suite à un concours que les gens postulent. Et avant le concours, il y a des commissions qui sont mises en place. Et les sortants de quelle école peuvent prétendre faire le concours pour enseigner telle ou telle discipline. Et depuis un certain nombre d'années, nous sommes là en train de prioriser les sortants des grandes écoles.
Mais est-ce que cela est réellement respecté?
Et cela, dans les concours, cela est respecté. Cela est respecté parce que même l'année dernière, si vous suiviez les mouvements des syndicats de l'éducation, nous étions là à chercher un statut. un statut pour les enseignants. Et dans, c'est une loi, et dans ce statut, la priorité est donnée d'abord aux sortants des grandes écoles. Et même le concours de cette année, vous pouvez faire le constat, c'est les sortants des grandes écoles d'abord, dans toutes les filières, que ce soit l'enseignement fondamental, que ce soit l'enseignement secondaire général, que ce soit l'enseignement normal, que ce soit l'enseignement technique, c'est comme ça. Maintenant, le problème, le bas blesse où, c'est les écoles privées. Les écoles privées que l'État n'arrive pas à contrôler, qui aujourd'hui qui est un business. Qui est un business. C'est tout un marché. Hein. C'est tout un marché aujourd'hui en République du Mali. Je me souviens, je vais taire le nom du ministre, il n'est plus là. À l'orientation, ils nous ont rencontrés, les départements ont rencontré les partenaires avant l'orientation. Parce qu'après le DEF, les admis au DEF sont orientés dans les différents établissements. Et lors de cette rencontre, il dit, vous allez partir faire la répartition des enfants. Faites le plein des écoles publiques d'abord. Et après, les écoles privées, je m'assume. Je vous assure, hein, nous sommes allés, nous avons tout fait pour faire le plein des écoles publiques. Et il y a des écoles, beaucoup d'écoles, qui n'ont eu même un seul élève. Et à l'arrivée, nous sommes, le rapport est donné, tout. Après, et bien sûr, avec les pressions, à un niveau plus haut que le ministre, et bien sûr, il était obligé, il a été contraint de revenir sur sa décision et voilà, et répartir encore, donner des élèves à ces écoles, privées. Et avant l'orientation, tenez-vous bien, il y a ce qu'on appelle ce diagnostic-là, ils font dans les établissements privés, ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que les établissements privés qui répondent les critères pour recevoir les enfants du public ou pas. Et beaucoup des établissements ne répondaient pas, et bien sûr, à ces critères-là pour être éligibles. Et malheureusement, le constat a été qu'on leur a donné des élèves. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, tout le problème du Mali, dans le système éducatif, il y a aussi ce problème des écoles privées. Si l'État ne contrôle pas ces écoles privées-là, c'est un problème. Parce que nous avons compris que le contrôle est difficile. Du moment que c'est un marché et du moment que ceux-là qui doivent faire ce contrôle, ceux-là qui doivent régler le secteur sont des promoteurs, malheureusement. Ceux-là aussi veulent tirer du business, du profit dans le système éducatif. Donc il est important que nous partons au-delà. Dans d'autres pays, dans les pays voisins, vous trouverez que les écoles privées sont les meilleures. Parce qu'ils n'ont même pas besoin des élèves du public. Non, les gens même prennent les enfants et aller les inscrire dans ces écoles privées. Ça, c'est la qualité. Mais aujourd'hui, au niveau quand même de l'enseignement secondaire, un établissement qui n'a pas les élèves du public cette année, l'année prochaine, il va fermer les portes. Parce qu'il n'y a pas la qualité. Et même le recrutement, c'est là-bas où vous trouverez des gens qui viennent de tous les bords. Mais qui doit faire ce contrôle-là? Qui doit réguler le secteur de l'éducation? Ce n'est pas les anciens, ce n'est pas ceux-là quand même qui partent pour enseigner. Mais c'est l'État qui doit se donner tous les moyens nécessaires. Par exemple, on a l'inspection. L'inspection, c'est les techniciens qui sont là-bas, qui sont censés faire ce contrôle-là. Mais ils ont quels moyens? Ils sont au nombre de combien pour faire ce travail? Est-ce que même l'État s'inscrit dans cette logique? Parce que ça va casser quand même la marmite, c'est certain. Est-ce que l'État est prêt à faire face à tous ces sujets? Bon, donc, il y a tout ce problème-là. Maintenant, concernant nos leaders politiques, c'est ce que je disais. Il faut que nous sortions de l'amateurisme. Les gens pensent que il faut, au lieu de faire un résultat probant, que les gens vont juger le résultat et renouveler ou non leur confiance à tel ou tel. Non, les gens, les leaders politiques pensent aujourd'hui et même trouvent aujourd'hui qu'il faut chercher de l'argent. Et pendant les campagnes, bien sûr, il faut donner de l'argent aux uns et aux autres, les mobiliser en association, les mobiliser en regroupement et pour faire voter tel ou tel. Et non, parce que c'est ce qui est prouvé aujourd'hui pendant le quinquennat passé du président sortant. Et tous les secteurs étaient en mouvement. Pourquoi? Parce que les gens vivaient dans des conditions misérables. Et si les gens se révoltent, ce n'est pas parce qu'ils sont contre le président de la République. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont contre le gouvernement. Non, parce qu'ils vivent dans des conditions misérables et ils veulent que, et bien sûr, ces conditions-là changent. Et le président est élu pour ça. Le gouvernement aussi est là pour chercher des solutions à ces problèmes-là. Maintenant, l'occasion était là à ce que les gens, les candidats débattent sur le contenu de leur programme. Et c'est à partir du programme que nous pouvons juger tel président ou tel président. Dans ton programme, vous aviez prévu, promis tel ou tel nombre d'emplois. Vous avez dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de santé, dans tous les services et dans tous les secteurs. Mais à l'heure du bilan, où en sommes-nous? Mais si nous ne débattons pas sur, comme on appelle, le programme et comment nous allons juger les uns et les autres. J'ai l'habitude d'entendre le président sortant sur une chaîne disant qu'il n'a pas beaucoup promis aux gens. Et quand on lui a demandé le bilan, il dit qu'il n'y a pas, il n'est pas l'heure du bilan, mais lui n'a pas beaucoup promis aux Maliens. Vous voyez, est-ce que cette fois-ci aussi, est-ce que nous avons eu le temps nécessaire, et bien sûr, de mettre les candidats bien sûr, en confrontation. Et moi, j'étais très ému quand on discutait sur la loi électorale à l'Assemblée nationale. Moi, j'avais pensé qu'ils allaient au moins se contraindre, mettre ça dans la loi électorale, assurer qu'au moins les finalistes, qu'il y ait un face-à-face hein, entre les finalistes quand même au second tour, pour leur permettre, et dans les deux langues, et en français, et en langue nationale, pour que le citoyen lambda, pour que l'intellectuel aussi puisse savoir qu'est-ce que tel candidat nous propose, pour que dans les 5 années à venir, nous puissions l'évaluer, même à mi-parcours.
D'accord, monsieur Fomba, nous allons... Oui, monsieur Diallo, nous allons revenir, oui. Alors, monsieur Sissoko, et en ce qui concerne l'inclusion des personnes vulnérables.
L'inclusion des personnes vulnérables en général et l'inclusion des personnes vivant avec handicap, il faut faire un cap sur ça. Aujourd'hui... Vous voyez, de manière générale déjà, ça ne va pas dans la santé, ça ne va pas dans l'éducation. Je ne vais pas dramatiser la situation, mais je laisse le soin à tout le monde d'essayer d'imaginer un enfant aveugle essayer d'étudier dans une école ordinaire. Au Mali, quand tu es sourd, ton niveau scolaire, tu ne peux pas dépasser le DEF, parce que le système s'arrête au DEF. Que tu sois intelligent ou pas, toi, ton stop, c'est le DEF. Jusqu'en 2018, le Mali est à ce stade. Pendant qu'à côté de nous, au Ghana, les sourds sont pris en charge jusqu'à l'université au Mali, au niveau DEF. C'est sur le plan de l'éducation. Je ne veux pas parler des déficits intellectuels. Quand on revient au niveau de la santé, à peine on essaie de rendre les centres de santé accessibles aux personnes vivant avec handicap. Le seul type d'accessibilité qui est pris en compte, c'est juste la construction des rampes d'accès, des rampes qui ne respectent pas les normes. La rampe doit permettre l'autonomie à la personne qui est en fauteuil. Mais c'est des rampes, même quand tu es assisté par quelqu'un, vous risquez de tomber tous deux. Des rampes raides, mal faites, sans consulter. Il y a un grand problème dans ce pays. Le principe de participation, en tant que principe de droit de l'homme, n'est pas respecté. Je ne peux pas faire une réforme, proposer une réforme, et jusqu'à aller mettre cette réforme en œuvre sans consulter sur le journalisme, sans consulter un groupement ou un syndicat de journalistes. C'est vous qui exercez ce métier. C'est vous qui savez les tenants et les aboutissants. Il faut toujours associer la partie prenante à ce qu'on fait. C'est ça le principe de participation. On ne le fait pas ici. Tout le temps, les groupes sont surpris de voir des réformes les concernant. On va seulement faire un semblant de théâtre, les faire participer, les impliquer à une petite partie et ressortir, aller faire ce qu'on veut, aller budgétiser les choses comme on veut. Ça ne peut pas marcher, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Si c'était sorcier, on n'allait pas étudier. On va étudier, c'est pour apprendre des sciences, comprendre la gestion de certains domaines et venir les appliquer. Tu ne peux pas être hors d'un domaine et vouloir l'appliquer parce que je suis directeur de tel service ou bien je suis proche des temps pour faire cela. Non, c'est pas possible. Tu le fais, c'est vrai. Tu le fais pour des gains pécuniaires supplémentaires. Mais sois sûr, tu n'auras pas de résultats, ça va pas marcher. Et c'est ce qui arrive dans tout ce que nous faisons au Mali ici. Avec les personnes vivant avec handicap, c'est la même chose. On n'est pas... Le principe de participation n'est pas respecté. Il y a quelques implications. La dernière fois, avec la loi sur les personnes handicapées, le 10 mai, qui a été votée le 10 mai à l'Assemblée nationale, sur la loi, qu'est-ce qui se passe? La loi a été conçue totalement par le ministère et après, on nous a amené une loi à l'Assemblée nationale pour que la loi soit votée. C'est un groupe d'ensemble. Déjà, le nom de la loi, c'est « Loi de promotion des droits des personnes vivant avec handicap ». Personnes vivant avec handicap, déjà au niveau de l'appellation, ils ont commis une erreur. On a déjà une logique internationale qui est là. Il y a un traité international qui parle de droits des personnes handicapées. Depuis les Nations Unies à l'Union africaine jusqu'à la CEDEAO, on parle de droits des personnes handicapées. Le Mali seul se permet de parler des droits des personnes vivant avec handicap. Là, c'est juste l'appellation. Si on avait été associé, moi, j'ai participé à l'élaboration des lois de plusieurs pays, comme le cas du Niger, du Togo, du Bénin, parce que je travaille avec la Fédération Ouest-Africaine des associations de personnes handicapées. Moi-même, dans mon pays, je suis surpris de voir un projet de loi qui arrive à l'Assemblée avec le nom « Loi des personnes vivant avec handicap ». Vous voyez un peu. Et tant qu'on ne respecte pas ces principes de participation, on n'aura jamais les résultats attendus parce que les personnes...
Mais est-ce que vous avez fait mention de cela?
Bien sûr, à l'Assemblée, on a été écouté par les députés, on a apporté nous avons observé le projet de loi et nous ne pouvions que observer le projet de loi. Ça ne s'est pas passé. La mouture initiale a été proposée aux députés, ils ont voté, mais on était obligé de laisser ça passer comme ça. Quand même, en l'absence de loi, une mauvaise loi vient, mais le projet futur, c'est de pouvoir la modifier, l'améliorer, pour que tous les droits des personnes handicapées soient pris en compte.
D'accord. Oui, M. Diallo. Okay.
Moi, je voudrais juste ajouter, M. Foma a parlé de promoteurs des écoles privées. C'est pareil pour la santé. Hein. Allez-y seulement dans un CHU, tu vas voir ceux qui sont spécialisés, ceux qui sont des spécialistes dans tel domaine, ceux qui sont promoteurs des cliniques. On va te prescrire une ordonnance, on va te dire, allez-y dans telle clinique. C'est pour eux. Quelqu'un qui n'a pas d'argent. Allez-y faire juste un constat, consultation dans un hôpital public, consultation dans une clinique privée. Il y a un fossé qui est là. Et le problème, c'est quoi? Il a dit, hein, c'est l'éveil de nous en tant que citoyens lambda. On ne joue pas notre rôle, il faut le dire. On ne joue pas notre rôle. Au-delà de ça aussi, il va falloir qu'on se remette en cause que ces dirigeants-là, d'où viennent ces dirigeants-là? C'est nous qui nous avons élus. On leur fait confiance pour telle chose. Et si ils ne respectent pas ce contrat-là, mais ce n'est pas compliqué. C'est à nous de dire, voilà, on t'a fait confiance pendant tel moment, tu n'as pas respecté. Ben, ce n'est pas compliqué. Si on nous donne la chance de renouveler encore ce contrat-là, c'est à nous de voter encore.
D'accord, M. Diallo, malheureusement, le temps nous fait défaut. En 30 secondes, quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau président?
Merci beaucoup. Mes attentes vis-à-vis du nouveau président. C'est vrai, comme on le dit, tout ce qui n'est pas inscrit dans la Constitution est permis, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais que le nouveau président, vraiment, accepte que sa famille se soigne chez nous. Là, il aura le temps d'aller voir comment ça se passe dans le CHU. Que ses enfants étudient chez nous. Qu'on fréquente les mêmes universités, qu'on fréquente les mêmes lycées. C'est là mes attentes.
D'accord. Et vous, M. Foma?
Très rapidement, moi, j'attends du nouveau président, c'est d'abord l'inclusivité, c'est-à-dire dans la prise de décision. C'est-à-dire qu'il y ait au moins vraiment des dialogues dignes de ce nom, qu'on parte. Et cette fois-ci, que ça ne soit pas des forums seulement et que les recommandations et les conclusions dorment dans les tiroirs, mais que cette volonté politique, ce courage politique accompagne les décisions vraiment pour que vraiment le Malien puisse se sentir un peu à l'aise. Vraiment, là, c'est important. Et aussi que le nouveau président fait face à la corruption. C'est très important.
Ok. Et vous, M. Sissoko?
Très rapidement, il faut bannir la corruption, il faut réduire, sinon supprimer, éliminer les inégalités sociales. Et cela ne va pas par mille chemins. Il faut vraiment approcher le peuple. Il ne faut pas approcher le peuple pendant les campagnes seulement. Il faut approcher le peuple. Il faut chercher à savoir quels sont les besoins des peuples, les traduire en droit et prendre compte de ça dans les différentes politiques. En plus de ça aussi, il faudrait que les nouveaux gouvernants sachent que ce système ne peut plus continuer, parce que quand le peuple souffre, quand on abuse du peuple, quand le peuple veut revendiquer, on passe par des leaders communautaires, les chefs traditionnels, les leaders religieux pour calmer la situation. Et ça, c'est une situation qui ne va plus durer. Il faut arrêter tout ça. Il faut faire face à la réalité et il faut regarder les pays d'à côté. Le Mali commence à être dernier des derniers.
Merci beaucoup, M. Sissoko. Et cela met fin à ce débat sur les attentes de la population du nouveau président pour l'amélioration des services sociaux de base. Merci à nos invités, Mamadou Sissoko, représentant de la Fédération malienne des personnes handicapées, Samerou Diallo de l'association SOS aux hôpitaux, Adam Fomba, porte-parole des syndicats signateurs du 15 octobre 2016. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Philippe Dambélé, la régie vidéo est assurée par Noundjiré. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Haloud Mouni.
Chenne Beri, Sigi.